Chapitre 8. Aurelio. Aurelio se leva tôt, et à 7 heures pétantes, il était déjà lavé et rassasié. Il pensait toujours à cette femme, ainsi qu'à Roger Koopman. Avant de sortir, il se fit briefer. Comme d'habitude, tout était plutôt calme jusqu'à la 34e rue, puis la situation se dégradait à mesure que l'on remontait vers le nord de la Dark Zone. D'après les éclaireurs, la pointe nord de Manhattan était relativement sûre, en grande partie parce que quasiment plus personne n'y vivait. Comme la JTF avait concentré ses ressources plus au sud, près des bases principales de Hudson Yards et du Post Office Building, la plupart des survivants s'y étaient regroupés. Aurelio avait effectué un petit paquet de missions à Washington Heights et à Harlem, aussi trouvait-il cette dernière affirmation un poil optimiste. Mais il ne pouvait se baser que sur sa propre expérience. Et il était fort possible que les éclaireurs de la JTF et d'autres agents de la division disposent de meilleures informations. Il garda donc son avis pour lui et alla retrouver Ed une fois le briefing terminé. Comme toujours, ce dernier se trouvait dans le centre des opérations au premier étage, entouré d'appareils de communication et d'écrans d'ordinateur. D'énormes câbles d'alimentation partaient de son espace de travail, filaient dans le couloir et disparaissaient à l'arrière du bâtiment où un générateur devait ronfler sur un escalier de secours ou bien un toit. Quand il vit Aurelio approcher, il leva les yeux. « Toujours à la recherche d'infos sur je sais pas qui ?»« Koopman. Eh ouais. » Diaz patienta tandis qu'Ed cherchait dans les diverses bases de données de la JTF. « Son nom apparaît de temps en temps. » lâcha-t-il enfin, principalement en tant que co-auteur ou rédacteur en chef de publications scientifiques sur lesquelles Crandall et son groupe se basent pour leurs recherches antivirales. Je ne vois rien qui prouve son implication directe dans... Oh, attends voir, ajouta-t-il en tapotant son écran et en faisant défiler la page. Il y a une note dans les registres d'opérations concernant cette adresse. Au sujet de la mise en place d'une sécurité passive et d'une surveillance continue. Il se pencha en arrière. « Je ne sais pas de quoi il s'agit, » reprit-il. « C'est pas de mon niveau. » Mais quelqu'un tenait manifestement à s'assurer que ce type soit en sécurité, même planqué en pleine Dark Zone. Tu veux savoir autre chose ? « Ouais, c'est un scientifique. » Est-ce qu'il travaille sur un projet avec Crandall et son équipe? On dirait que non, ou pas directement. Mais je n'ai pas accès au registre. Par contre, je vois ici qu'il a rendu visite à un certain docteur Liu, au labo du Post Office Building, et c'est l'un des chercheurs de Crandall. Ed continua ses recherches, puis se résigna. C'est tout ce que j'ai, mec. Désolé. Merci, Ed. Aurelio consulta le panneau d'émission pour connaître les secteurs sensibles du jour. La base secondaire du pont de Queensboro à Manhattan subissait une augmentation des activités hostiles menées par une bande qui cherchait à quitter l'île. Le Midtown Tunnel, plus bas dans la rue, avait été inondé en hiver. D'après la rumeur, c'était la JTF elle-même qui l'avait noyé pour réduire le nombre de sorties à surveiller. Pareil pour tous les tunnels du métro sous l'Hudson et l'East River, ainsi que le Brooklyn Battery Tunnel. Le Holland Tunnel, lui, était encore ouvert. Il fallait bien conserver une route d'approvisionnement en surface. C'était logique, puisque l'entrée du côté de Manhattan se situait à seulement 2 pâtés de maison de la base principale de Hudson Yards. La situation semblait sous contrôle. Et Aurelio continua donc son analyse, mais il ne pouvait s'empêcher de réfléchir à ce qu'une civile pouvait bien vouloir à Roger Koopman pour être prête à braver la Dark Zone sans aide. Si ce dernier était un contact de la JTF, cela donnait un tout autre sens à cette visite. Quand il retournerait dans la Dark Zone, elle serait sûrement partie depuis longtemps. Mais Diaz était tenté de s'y rendre quand même pour demander des explications aux scientifiques. D'un autre côté, la ville de New York ne manquait pas de problèmes plus urgents à régler. Koopman, lui, ne menaçait personne. Aurelio décida finalement de laisser tomber. Entre satisfaire sa curiosité et sauver des vies, ce qui restait sa mission, il fallait choisir. Les gens faisaient des tas de choses étranges. Cela avait toujours été le cas, se disait-il. Et depuis l'épidémie, ils avaient encore moins de raisons de s'en priver. « Si jamais tu t'ennuies, » lui lança Ed depuis l'autre bout de la pièce, « j'ai des documents que le phare attend dans la journée. C'est vital ?» Aurelio ne tenait pas à passer la journée à jouer les livreurs alors que d'autres agents risquaient leur peau. À moins bien sûr que les documents en question soient de ceux qui permettaient de sauver des vies. Et s'il fallait les emporter à la base d'opération principale de la JTF du Post Office Building, le phare, il devait être d'une importance capitale. « Ouais, on a récupéré ça hier lors d'une mission. Certains de nos gars ont intercepté un groupe paramilitaire qui tentait d'atteindre l'île en passant sous le Triboru Bridge. Les huiles veulent y jeter un œil fissa, et l'agent qui les a rapportés n'est pas disponible. » expliqua Ed en lui tendant le paquet, une épaisse enveloppe en plastique scellé qu'Aurelio saisit. « Pourquoi ? » demanda-t-il. « Il est mort pendant la nuit. » Diaz remarqua alors les traces de sang séché sur l'enveloppe, comme si quelqu'un avait timidement tenté de les essuyer. « C'était qui ? » ?»« Leila Khan, tu la connais ?»« Non, » répondit Aurelio en secouant la tête. Il avait néanmoins connu des tas d'autres agents qui, eux, n'avaient pas tenu aussi longtemps. Lors d'une opération commando, l'ISAC analysait les signes vitaux de chaque membre et envoyait des notifications aux autres quand l'un d'eux était mourant, afin que l'infirmier de l'équipe puisse aller l'aider. Et s'il était déjà trop tard, le système avait une façon bien à lui d'avertir la squad qu'elle avait perdu quelqu'un. « Blessure mortelle détectée !» annonçait habituellement l'IA. Aurelio fourra l'enveloppe dans son sac, puis notifia l'ISAC qu'il était en mission et à destination du phare. L'ATH de ses lentilles afficha une carte aérienne pour lui indiquer le trajet optimal qui lui ferait traverser Central Park, puis descendre la 8e avenue. La base se trouvait dans le vieux bureau de poste, juste en face du Madison Square Garden, où Aurelio avait d'ailleurs accompli l'une de ses premières missions. Le complexe servait alors d'hôpital de campagne, et lorsque des émeutiers l'avaient envahi, la JTF avait demandé de l'aide pour secourir son personnel médical. Aurelio n'était à New York que depuis 2 ou 3 jours, mais il avait participé à la sécurisation d'un passage jusqu'au phare. Il se demanda si Jessica Candle comptait parmi les médecins qu'il avait fait sortir. Une fois l'intervention terminée, il avait été trop épuisé pour prendre leur nom ou mémoriser leur visage. Il pourrait la croiser dans la rue sans même la reconnaître. Maintenant qu'il pensait à elle, Aurelio avait bien envie de passer par l'aile médicale pour voir ce que le docteur pourrait lui dire au sujet de Roger Koopman. Mais d'abord, il devait assurer le transport de ses documents. Il remplit ses bouteilles d'eau, vérifia ses réserves, puis sortit sur la 92e rue par cette belle matinée de printemps. La présence de la JTF dans la zone attirait des camions-restaurants et d'autres marchands. Il y avait donc souvent un petit marché près du Cooper & Witt Museum et du réservoir. Aurelio le traversa en flânant et en humant les odeurs de cuisine. Celle du pain frais le poussa à s'arrêter devant un étal. « Mince, ça sent vraiment bon !» Il fouilla dans ses poches, à la recherche d'un objet susceptible d'intéresser un boulanger en échange d'une miche de pain. Ça faisait des mois que plus personne n'utilisait d'argent à Manhattan. « Ah !» fit le boulanger en remarquant l'équipement d'Aurelio. « Un chevalier du cercle orange !» Il prit une miche et la lui tendit, sa barbe couverte de farine, trahissant un large sourire. « C'est la maison qui offre ! Mais n'allez pas le dire à tous vos camarades, hein ?»« Merci !» répondit Aurelio, en lui rendant son sourire. Il n'aimait pas les cadeaux, mais savait au fond de lui que c'était une mentalité un peu étrange. Quiconque passait le plus clair de son temps à croiser des gens bien décidés à le tuer avait facilement tendance à oublier que le monde recelait aussi de la tendresse et de la générosité. Ceux qui savaient ce que faisaient les agents de la division leur en étaient reconnaissants. Et Aurelio avait fini par comprendre qu'il était important d'accepter leur gratitude, sans bien sûr en abuser. Vous savez quoi ? Lança Diaz en arrachant un bout de pain avant de sortir. La prochaine fois que je passe dans le coin, je vous rapporte quelque chose. Vous avez besoin de quoi ?
De quoi j'ai besoin ?
Oh, rien de bien extraordinaire. D'une source d'alimentation fiable, de crème glacée, de baseball à la TV. Mais vous savez ce qui me manque le plus ? Mes promenades hebdomadaires sur le pont de Brooklyn. Depuis tout ça, je ne suis pas descendu plus bas qu'Union Square. Si jamais vous tombez sur un truc qui le représente ou l'indique, un panneau, n'importe quoi, je l'accrocherai juste là.
Il tapota l'auvent qu'il avait installé au-dessus de son étal.
Et vous, vous aurez du pain gratuit à vie.
Marché conclu, répondit Aurelio. Je verrai ce que je peux faire.
Il essaya de se rappeler la dernière fois qu'il était allé près de l'hôtel de ville ou du pont de Brooklyn. En février, peut-être. Il leva le morceau de pain en signe d'au revoir, puis le dégusta pendant qu'il passait le bord sud du réservoir et empruntait la 86e rue transversale en direction de l'ouest de Central Park. Ce dernier n'était quasiment plus qu'un patchwork de charniers. Mais en plusieurs endroits, les gens avaient commencé à cultiver des jardins. Aurelio longea même un enclos de chèvres. Où donc avait-on pu trouver des chèvres ? New York était décidément pleine de mystères. Il y avait un autre marché devant le Muséum d'Histoire Naturelle. Puis, les rues se faisaient de moins en moins animées à mesure que l'on approchait du coin nord-ouest de la Dark Zone, à Columbus Circle. Là-bas, il serra la poignée de son G36 en tâchant de rester aussi détendu que vigilant. L'Isaac ne détectait aucun ennemi, mais il n'était pas omniscient. Son système reposait sur la reconnaissance faciale et la détection des uniformes, en association avec la base de données de la JTF, dédiée aux positions connues des gangs, sectes, etc. Dans l'ensemble, il était très pratique pour informer les agents des caractéristiques générales d'une zone, mais au bout du compte, rien ne valait l'observation et l'attention. Les yeux et les oreilles. Il croisa une patrouille de la JTF juste au sud de Columbus Circle, avant l'angle des barricades de la Dark Zone. Elle suivit Broadway, tandis qu'Aurelio resta sur la 8e avenue. Le terminal de Port Authority était entouré de bus carbonisés et de sans-abri au regard vide. Ces derniers lui jetèrent un coup d'œil, puis prirent leur distance. Un autre marché, noir de monde, était installé sur la place venteuse du Madison Square Garden. L'extrême proximité de la base d'opération de la JTF en faisait l'endroit le plus sûr de la ville. Tous les bâtiments des blocs alentours étaient habités par des gens qui s'étaient rassemblés là pour s'y sentir en sécurité. Dans tout New York, c'était ici que les choses semblaient les plus normales. Mais chacun regagnait cependant la sécurité de son domicile à la nuit tombée. Et Aurelio savait que la plupart des marchands et des habitants étaient armés. La civilisation ne tenait plus qu'à un fil, même ici. En voyant son équipement de la division, les gardes du Post Office Building le saluèrent. Et il entra pour dénicher l'officier de permanence, qui, selon l'un d'eux, était un certain lieutenant Hendrix. Il la trouva dans l'aile sécurité. C'était une afro-américaine d'une cinquantaine d'années à l'air sérieux, aux dreadlocks poivre et sel, et à la patience toute relative avec ceux qui l'empêchaient de se concentrer sur la carte des opérations qu'elle était en train de consulter.
« Que puis-je pour vous, agent ?»
demanda-t-elle rapidement en l'examinant, avant de retourner à son plan.
« J'arrive tout droit du centre communautaire de la 92e rue, » répondit-il en lui montrant l'enveloppe. « Je suis censé remettre ça à un officier de renseignement. »
Aurelio vit que la femme avait remarqué les taches de sang.
« On dirait que ça a coûté cher, » soupira-t-elle.
« Le prix fort, » confirma-t-il.
Hendrix marqua une pause, puis tendit la main.
« Vous devez la remettre en main propre ou je peux m'en charger ?»
Ed ne lui avait donné aucune instruction à ce sujet, aussi la lui remit-il.
« Je vais m'assurer qu'elle arrive sans attendre, » dit le lieutenant.
Aurelio la regarda s'éloigner jusqu'à un bureau.
« Un jour, » se dit-il,
on érigerait un mémorial en l'honneur de tous les agents de la division morts pour garantir la survie des États-Unis après le poison vert. Il espérait simplement que son nom n'y figurerait pas.